Amen. On vit vraiment une époque particulière, une époque troublée. C'est vraiment bizarre ce qu'on vit. Il y a quelques semaines, quelques mois, jamais on n'aurait imaginé qu'on passerait nos cultes sur Zoom. Et même il y a quelques mois, on ne savait même pas ce que c'était Zoom pour la plupart d'entre nous. C'est vraiment étonnant. Et ce qu'on vient de prier maintenant, c'est par rapport aux soignants, par rapport à tout ce qui se passe dans les hôpitaux. On a prié entre autres pour que les gens les soignants dans les centres de soins n'aient pas peur, que l'esprit de peur soit chassé, qu'il soit gardé, protégé. Et tout ça, ça montre qu'on est vraiment dans une époque vraiment difficile, avec énormément de défis, avec des enjeux, avec des difficultés, avec des souffrances, avec tout ce qu'on peut imaginer. Et ça fait poser beaucoup de questions. Et le peuple hébreu du temps de Malachi, parce qu'on va continuer avec Malachi, le peuple hébreu, il se posait aussi pas mal de questions. Et entre autres, il se posait des questions par rapport à la justice. Alors, avant qu'on aille plus loin, prenez juste, je ne sais pas moi, 30 secondes et réfléchissez pour vous, c'est quoi la justice? On se prend 30 secondes là maintenant. C'est quoi la justice? Le but, ce n'est pas de le dire, mais c'est de réfléchir en vous-même, c'est quoi pour moi la justice? Voilà, je ne sais pas si vous avez trouvé quelques éléments, mais gardez ça en mémoire et puis vous verrez si les choses évoluent au fur et à mesure du message ou bien pas, ou si ça vous donne des pistes ou si ça vous donne des réponses. Donc voilà, comme je vous l'ai proposé depuis plusieurs mois, jusqu'à la fin de cette année, mes prédications, je les base sur le livre de Malachi. Enfin, la plupart en tout cas, on est dans l'Ancien Testament et puis jusqu'à Noël, on parle de ce que Dieu a dit au travers du prophète Malachi. Et Malachi, c'est le dernier prophète, c'est le dernier livre de l'Ancien Testament. Et on est donc après l'exil. Le peuple hébreu est revenu d'exil. Il est à Jérusalem, il est sur ses terres, mais c'est toujours très difficile parce que le terrain est toujours occupé, l'oppresseur est toujours là et rien ne va plus en fait. Les gens sont adultères, les gens vivent dans l'immoralité. Le temple qui a été reconstruit s'y passe à peu près n'importe quoi. Les offrandes qu'on amène, elles sont estropiées et le peuple n'arrête pas de se plaindre. C'est vraiment compliqué. Même à un moment donné, quand il fallait s'occuper des choses de Dieu, du culte pour Dieu, Les gens disaient, mais quelle fatigue! Ça fatiguait le peuple d'apporter des offrandes à Dieu, de louer Dieu, de célébrer le Seigneur. Alors, le peuple qui vit vraiment des souffrances, qui est contrarié, en fait, ils sont revenus sur leur terre et ils sont toujours pas libres, c'est toujours difficile. Ils se posent la question, mais il est où le Dieu de justice? Elle est où la justice? Et ils s'en prennent quand même à Dieu. Ils le rendent quand même responsable de ce qui leur arrive. Alors, j'espère que vous avez vos Bibles avec vous. Ce serait vraiment bien. Parce que là, comme ça, par Zoom, c'est plus simple si vous arrivez à lire le texte en même temps que moi, parce que c'est un peu spécial comme moyen de prédication. Mais voilà, si vous avez votre Bible, eh bien, vous pouvez l'ouvrir à Malachi 2. Malachi 2. À partir du verset 17. Donc Malachi, le dernier livre. Malachi 2, à partir du verset 17. Je vais vous lire jusqu'au chapitre 3, verset 6. Vous fatiguez l'Éternel par vos paroles et vous dites, « En quoi l'avons-nous fatigué ?» C'est en disant, Quiconque fait le mal est bon aux yeux de l'Éternel. Et c'est en lui qu'il prend plaisir. Ou bien, où est le Dieu de la justice? Voici, j'enverrai mon messager. Il préparera le chemin devant moi. Et soudain entrera dans son temple le Seigneur que vous cherchez. Et le messager de l'alliance que vous désirez, voici, il vient, dit l'Éternel des armées. Qui pourra soutenir le jour de sa venue? Qui restera debout quand il paraîtra? Car il sera comme le feu du fondeur, comme la potasse des foulons. Il s'assiera, fondra et purifiera l'argent, il purifiera les fils de Lévi, il les purifiera comme on épure l'or et l'argent, et ils présenteront à l'Éternel des offrandes avec justice. Alors l'offrande de Juda et de Jérusalem sera agréable à l'Éternel, comme aux anciens jours, comme aux années d'autrefois. Je m'approcherai de vous pour le jugement. Et je me hâterai de témoigner contre les enchanteurs et les adultères, contre ceux qui jurent faussement, contre ceux qui retiennent le salaire du mercenaire, qui oppriment la veuve et l'orphelin, qui font tort à l'étranger et ne me craignent pas, dit l'Éternel des armées. Car je suis l'Éternel, je ne change pas, et vous, enfants de Jacob, vous n'avez pas été consumés. Le peuple hébreu se dit, mais où est le Dieu de la justice quand on voit tout ce qui se passe? C'est un petit peu comme nous maintenant, avec le confinement, les problèmes économiques, les personnes qui sont malades, les personnes qui ont perdu la vie, même avant le corona. Combien de fois on a entendu les gens qui disent « Mais où est Dieu? Où est Dieu dans tout ça ?» Il y a des guerres, il y a de la pauvreté, il y a des abus, il y a des injustices, mais où est Dieu? Si Dieu est amour, comment ça se fait qu'il laisse faire ça? Si Dieu est amour, comment ça se fait qu'il laisse des gens aller en enfer? Alors, ils disent, mais où est le Dieu de la justice? Quiconque fait le mal est bon aux yeux de l'Éternel et c'est en lui qu'il prend plaisir. En fait, ils accusent Dieu de dire que le bon est mal et que le mal est bon. Alors, ça fatigue le Seigneur. Pour finir, Dieu répond, parce qu'il ne peut pas soutenir ce langage, parce que justement, Dieu ne change pas. Donc Dieu, il est saint, il le sera pour toujours. Dieu est amour, il le sera pour toujours. Mais il y a quelque chose que le peuple n'a pas saisi. Alors voilà comment ce que le Seigneur répond. Il dit, voici, j'enverrai mon messager. Il préparera le chemin devant moi. Et ça fait évidemment penser à Ésaïe. Ésaïe 40 qui parle du messager qui proclame dans le désert que voilà mon messager, préparer le chemin du Seigneur, aplanissez son sentier. Et en fait, on peut se dire, là, Malachie, comme Ésaïe, il est en train de prophétiser la venue de Jean-Baptiste. Ce messager, c'est Jean-Baptiste qui prépare le chemin du Seigneur. Mais comment est-ce que Jean-Baptiste, il a préparé ce chemin? Jean-Baptiste, il l'a préparé en proclamant la repentance. C'était une préparation des cœurs. Il a préparé le chemin du Seigneur avec les cœurs. Il faut se repentir, il faut enlever les gros cailloux, il faut enlever tous les obstacles à la repentance, enlever tous les obstacles aux transformations de vie. Donc là, il y a quelque chose qui est... On arrive à un point de bascule dans le livre de Malachie. Pourquoi ? Parce que tout à coup, Malachie est en train d'annoncer la venue du Messie. Il est en train d'annoncer, Jean-Baptiste va préparer la voie de Dieu sur terre. C'est-à-dire que c'est un événement cosmique, en fait. Jean-Baptiste, il est en train d'annoncer un événement cosmique, c'est-à-dire si vous regardez, je ne sais pas comment vous êtes installé chez vous, vous avez peut-être une fenêtre dans la pièce où vous êtes, vous regardez dehors, je ne sais pas ce que vous voyez, mais est-ce que vous voyez la création? Est-ce que vous voyez la nature? Est-ce que vous voyez, ou alors vous essayez d'imaginer tout ce que Dieu a créé? Vous imaginez le corps humain, comment est-ce qu'il fonctionne? Vous imaginez l'immensité de l'univers, tout qui se tient, tout qui fonctionne? Eh bien, Jean-Baptiste, il est en train d'annoncer, mais en fait, celui qui a créé toutes ces choses-là, celui qui maîtrise tout, celui qui est tellement grand, il va s'incarner, mettre toute sa puissance, sa divinité dans une chair humaine et il va venir rejoindre l'humanité. Ça, c'est un point de bascule. C'est un point de bascule dans l'humanité. Nous, on est chrétiens. Pour certains, on est chrétiens depuis longtemps. Donc, en fait, des fois, ça ne nous touche même plus. On sait que Jésus est venu sur terre, Jésus était homme et il était Dieu, etc. Mais est-ce qu'on a déjà réfléchi au fait que c'est Dieu, c'est la divinité qui est venue rejoindre l'humanité et que ça, c'est un événement cosmique, c'est un événement qui dépasse notre condition. Donc là, c'est un point de bascule. En fait, Dieu est en train de parler de cette justice en disant « Mais il y a quelque chose dans le Messie qui est en train d'arriver. » Et si on va plus loin, au verset 1 de Malachie 3, il dit « Et soudain entrera dans son temple le Seigneur que vous cherchez et le messager de l'alliance que vous désirez. Voici, il vient. » On a deux fois le mot « messager » dans ce passage, mais ce n'est pas la même personne. Et puis ce mot « messager », c'est la même chose que « ange ». On peut utiliser le même mot. Et chaque fois dans la Bible qu'on voit « ange de l'Éternel », eh ben c'est ce mot « messager » qui est utilisé. On peut dire « messager de l'Éternel » ou « ange de l'Éternel ». Donc là, on comprend que c'est Jésus. C'est Jésus que le Seigneur annonce. « Et soudain entrera dans son temple le Seigneur que vous cherchez ». Le messager de l'Alliance, Jésus, le Jésus de l'Alliance, le Dieu de l'Alliance, que vous désirez, voici, il vient. Qui pourra soutenir le jour de sa venue? Qui restera debout quand il paraîtra? En fait, le Seigneur, au travers de la bouche de Malachie, il est en train de faire de l'ironie. Quand on lit le texte comme ça, on n'a pas tellement l'impression. Mais si vous regardez bien le contexte, c'est que le peuple, il se plaint. Le peuple dit, il y a de la pauvreté, il y a du coronavirus, il y a du confinement, il y a tous ces problèmes. Où est le Dieu de justice? Et l'Éternel, il dit, ben, ce Dieu de justice que vous désirez, le messager de l'Alliance que vous désirez. C'est presque ironique, parce qu'en fait, il rajoute aussi messager de l'Alliance. Et l'Alliance, c'est ce que Dieu a fait avec chacun d'entre nous, avec l'humanité. Dieu a fait alliance avec nous. Et si le peuple, il a dû partir en exil, si le peuple, il est débauché, si le peuple, il offre des... Il faut que j'enlève le micro de Norma. Si le peuple, il offre des sacrifices complètement estropiés, etc., ben c'est pourquoi ? C'est parce que le peuple ne répond plus à l'alliance de Dieu. Le peuple est sorti de l'alliance. Du coup, c'est la faute du peuple s'il est dans la dèche comme ça. C'est la faute du peuple si les conditions sont difficiles. Parce que s'il avait respecté les clauses de l'alliance, il n'y aurait pas eu tout ça. Et ça commence depuis Adam et Ève. Depuis la première faute d'Adam et Ève jusqu'à maintenant, Dieu a toujours répété son alliance. Mais à chaque fois, le peuple en sort. Donc c'est pour ça que Dieu, c'est comme s'il fait de l'ironie en disant, ben, le messager de l'alliance que vous désirez, ouais, il va venir. Mais ça ne va pas se passer de la manière dont vous pensez. Qui pourra soutenir le jour de sa venue? Qui restera debout quand il paraîtra? En fait, Malachie est en train d'annoncer deux événements. Le premier, c'est Dieu qui s'incarne en Jésus-Christ, c'est Jésus qui vient sur terre. Le deuxième événement, c'est le jugement. C'est le jugement qui n'est pas encore venu aujourd'hui en 2020. Il y a ces deux événements qui sont dans le même passage. Et c'est vraiment important de le comprendre parce qu'on a à se préparer pour ce deuxième événement. Et du coup, là, il explique, mais ça va consister en quoi ? Il dit, ce jour où ce messager, ce jour où le Seigneur va venir, il sera comme le feu du fondeur, comme la potasse des foulons. Il s'assiera, fondra et purifiera l'argent. Il purifiera les fils de Lévi, il les épurera comme on épure l'or et l'argent, et ils présenteront à l'Éternel des offrandes avec justice. Le Seigneur va purifier. La première partie du jugement de Dieu, comment est-ce que ça va, en quoi est-ce que ça va consister? Eh bien, c'est de la purification, comme le feu du fondeur. Il y a marqué, il satiera, fondra et purifiera. En fait, le fondeur, il prend un creuset, donc un récipient, et il met dedans le métal qu'il veut purifier. Il s'assied, il a son récipient, son creuset devant lui, et puis il entretient le feu sous le creuset. Et il règle la température du feu, parce que selon le métal qu'il met dedans, il faut telle ou telle température. Il y a des métaux où il faut vraiment une température très forte et d'autres moins. Alors par exemple, il met de l'argent, il va mettre la température jusqu'à ce que les impuretés de l'argent se séparent pour ne garder que l'argent. Ou alors il va mettre de l'or et il va chauffer jusqu'à ce que les impuretés qui sont dans l'or sortent de l'or pour qu'il puisse récupérer l'or et jeter les impuretés. Et il y a un deuxième exemple qui est donné, c'est il sera comme la potasse des foulons. Les foulons, c'était en fait les blanchisseurs. C'est les gens qui faisaient la lessive. Et la potasse, c'est la matière qu'on utilise. C'est comme un savon, c'est comme l'eau de Javel de l'époque. C'est une espèce de... Enfin, c'est un mélange de terre, de plantes, etc. Et en fait, en mettant cette matière sur les habits, sur les vêtements, eh bien, les blanchisseurs, ils les foulent, ils marchaient dessus. Ils marchaient dessus pour écraser cette espèce de savon, cette pâte savonneuse, pour nettoyer les vêtements, les textiles, jusqu'à ce que les impuretés s'en aillent. Donc c'est un traitement qui est vraiment sévère. C'est pas forcément facile de subir ce traitement-là. Donc voilà, ça c'est une des parties, un des aspects du jugement. Quand Jésus va revenir pour juger, ça va être de la purification. Mais pourtant, nous, on vit déjà un peu cette purification. Chaque fois qu'on a des moments de brisement, chaque fois qu'on a des circonstances qui sont difficiles, ben souvent on utilise cette expression, on passe au creuset. Des fois, on ne sait même pas trop ce que c'est. Moi, souvent, j'ai utilisé cette expression, je me disais, mais passer au creuset, c'est creux. C'est un creux, je passe au creuset, je suis au fond du trou et puis je me réjouis que je puisse remonter. Mais en fait, non, passer au creuset, ça chauffe. Passer au creuset, c'est se faire purifier, c'est se faire ôter de soi des impuretés. Alors oui, c'est vrai que quand on demande au Seigneur de venir au secours dans des situations difficiles, eh ben souvent, il aplanit notre sentier, il favorise les circonstances pour que notre vie se déroule mieux. Oui, bien sûr, Dieu est un Dieu de bénédiction, un Dieu de grâce qui s'occupe de ses enfants. Et on peut voir sa grâce dans notre vie. Mais il y a des moments où il ne le fait pas tout de suite. Il y a des moments où il permet qu'on passe au creuset. Il y a des moments où il nous dit, mais c'est vrai, c'est légitime. C'est légitime que tu retrouves du travail. C'est légitime que tu aies telle réponse à ta question. C'est légitime que tu aies telle guérison. C'est légitime parce que je l'ai payé pour toi, parce que je l'ai acquis à la croix. Donc en moi, c'est légitime que ta vie aille bien dans tous les domaines. Mais il y a des choses encore dans ta vie qui doivent être purifiées. Et c'est mieux que je les purifie maintenant que plus tard. Il y a des choses, il vaut mieux qu'elles soient purifiées maintenant avant d'avoir un nouveau travail. Il y a des choses, c'est mieux qu'elles soient purifiées maintenant avant de trouver un conjoint. Il y a des choses qui sont mieux d'être purifiées maintenant avant de relever des nouveaux défis. Parce que sinon, on pourrait se faire encore plus mal, être encore plus brisé. Et c'est pour ça qu'il y a une période de brisement. Le but de Dieu, c'est de nous purifier complètement. C'est d'ôter de nous tout ce qui peut ôter, qui nous sépare de sa présence. Et tout ce qu'il aura fait maintenant, tout ce qu'il aura fait sur terre, il n'aura plus besoin de le faire quand il reviendra. Et ça, c'est le lot des enfants de Dieu. C'est que ce n'est pas parce qu'on est chrétien qu'on fait un claquement de doigts avec une prière que tout va bien. Il y a aussi des combats, il y a des luttes. Il peut y avoir des luttes extrêmement terribles, mais ça fait partie du parcours. Par contre, nous avons l'assurance d'être avec le Seigneur. Par contre, nous avons la paix. On peut avoir cette paix qui surpasse toute intelligence, même quand on est dans le creuset, même quand il y a des circonstances tellement difficiles. Mais ce qui est important, c'est de comprendre, Seigneur, dans ce que je suis en train de vivre maintenant, qu'est-ce que tu es en train de toucher? Qu'est-ce que tu es en train de purifier pour pouvoir collaborer au mieux? Et si je lis plus loin, au verset 5, je m'approcherai de vous pour le jugement. Et je me hâterai de témoigner contre les enchanteurs et les adultères, contre ceux qui jurent faussement, contre ceux qui retiennent le salaire du mercenaire, qui oppriment la veuve et l'orphelin, qui font tort à l'étranger et ne me craignent pas, dit l'Éternel des armées. Là, on a la deuxième partie du jugement. En fait, la première partie, c'est de la purification. La deuxième, si vous voyez le terme qui est utilisé, quand il dit « je m'approcherai de vous pour le jugement, je me hâterai de témoigner contre les enchanteurs et les adultères », ce mot « témoigner », c'est un terme juridique. Quand on va à la barre, on témoigne. Et en fait, ce qui se passe, c'est que pour la purification, Jésus, il est notre avocat. Quand il nous purifie, Jésus, nos impuretés, elles existent, mais parce qu'il a payé pour nous et qu'il est notre avocat, il se met devant le Père, devant le tribunal, puis il dit « mais j'ai payé ». Donc cette personne, on peut l'acquitter, c'est ok, c'est acquis. Mais pour ce qui est du témoignage, là, c'est plutôt un témoignage comme une accusation. C'est comme quand on va dénoncer quelqu'un au tribunal. Et là, c'est le rôle de Jésus, ce sera ben voilà, de dire « mais en fait, ces gens ont été des enchanteurs, ils ont été des adultères, ils ont juré faussement, ils ont méprisé le plus faible, ils ont méprisé la veuve, l'orphelin. » Et toutes ces choses-là qui vont complètement contre le Seigneur, eh ben, ils témoignent contre. C'est pas possible que ça tienne devant Dieu. C'est pas possible que ça tienne pendant le temps du jugement. Donc, il y a deux facettes au niveau du jugement. Il y a la purification, et ça concerne le peuple de Dieu. Et puis, il y a le jugement pour ceux qui se sont éloignés de l'Alliance, pour ceux qui refusent Dieu. Il y a quelque chose qui est assez terrible par rapport à la purification. Il y a marqué au verset 3, « Il purifiera les fils de Lévi. » Il les épurera comme on épure l'or et l'argent. Les fils de Lévi, c'est qui? Eh bien, les fils de Lévi, c'était la tribu de Lévi, qui était un des fils de Jacob, et c'est la tribu qui était responsable du culte, qui était responsable du tabernacle, qui était responsable du lieu de culte et du déroulement du culte. Et maintenant, c'est qui les Lévites? Les Lévites, c'est nous. Les Lévites, c'est les personnes qui ont accueilli le Seigneur. Les Lévites, c'est encore aussi Israël. Voilà, il y a deux spécificités entre Israël et ceux qui ont déjà reconnu le Seigneur. Mais ça veut dire qu'en fait, le Seigneur va commencer par nous purifier, nous. Et si vous lisez dans 1 Pierre, à Pierre 4, au verset 17, car c'est le moment où le jugement va commencer par la maison de Dieu. Or, si c'est par nous qu'il commence, quelle sera la fin de ceux qui n'obéissent pas à l'évangile de Dieu? Le jugement, il commence par l'Église. Donc, ne soyons pas étonnés de ce que nous vivons. Et moi, je crois que par rapport à tout ce qu'on est en train de vivre dans ce confinement, eh ben, on peut se dire qu'il y a une partie de purification par rapport au jugement qui est en train de se faire. Il y a des choses qui sortent à la lumière. Il y a nos comportements qui sont révélés. Il y a tout ce qu'il y a dans notre cœur qui est révélé. Même par exemple, jusqu'où est-ce que j'ai peur et jusqu'où est-ce que je peux avoir confiance. Il y a quelle attitude j'ai aussi, qu'est-ce que je fais pour protéger les uns et les autres pour qu'ils ne chopent pas le virus, ou qu'est-ce que je ne fais pas. Et en fait, il y a plein de situations. Comment est-ce que je vis l'isolement pour moi-même, mais comment est-ce que je suis sensible à l'isolement que vivent les autres? En fait, ça touche à plein de domaines. Le Seigneur est en train de révéler nos cœurs. Et ça, c'est une façon de nous faire passer au creuset. C'est l'occasion qu'il nous donne pour nous recentrer sur lui, pour comprendre qui il est, pour comprendre, mais c'est quoi la justice de Dieu? Parce qu'en fait, si on comprend bien tout ce qui est écrit dans ce passage, Dieu de tout temps, il a toujours été pour la protection des plus vulnérables. Chaque fois qu'il parle de justice, on peut voir ça dans d'autres livres de la Bible, chaque fois qu'il parle de justice, il est question de l'orphelin, de la veuve, de l'étranger, de la personne vulnérable. Et en fait, si on comprend bien, s'il n'y avait pas des enchanteurs, là vous avez peut-être un autre terme dans votre Bible au verset 5, quand il dit que je me hâterai de témoigner contre les enchanteurs. Les enchanteurs, c'était les gens qui faisaient de la divination, etc. C'est des gens donc qui faisaient de l'occultisme. C'est des gens qui étaient idolâtres. C'est des gens qui avaient des idoles. Qui d'entre nous n'a pas une idole cachée? Téléphone, télé, sport, nourriture. Enfin bref, la liste peut être longue. Les adultères. Si les gens n'étaient pas adultères. Si les gens avaient des pensées pures, si les gens gardaient leur corps, si les gens respectaient tout ce que le Seigneur dit par rapport à la gestion de notre sexualité. Si tout le monde disait la vérité plutôt que de jurer faussement. Si tout le monde donnait un salaire correct, là il y a marqué qu'il est contre ceux qui retiennent le salaire du mercenaire. Ce mot n'est pas bien traduit en français. En fait, c'est le salaire de toute personne qui a un contrat et qui reçoit un salaire. C'est pas un esclave, c'est toute personne qui reçoit un salaire pour le travail qu'il fournit. Eh bien, si toutes les personnes qui sont des employeurs respectaient et rémunéraient correctement leurs employés, ils seraient pas dans la justice. Si personne n'opprimait la veuve, si personne n'opprimait l'orphelin, si personne ne faisait du mal à l'étranger, s'il n'y avait pas de racisme, etc. On peut reprendre en fait tous les domaines qui sont mentionnés là. Si on réfléchit, comment serait la surface de la Terre si depuis le début, on avait bien rémunéré ceux qu'on emploie, on s'était occupé de la veuve, on aurait pris soin de l'orphelin, est-ce qu'il y aurait encore de la pauvreté sur Terre? Si on avait respecté les prescriptions qui sont dans l'Alliance. Même dans notre façon de faire de l'agriculture, par exemple. La nature, elle nous donne tout ce qu'on veut, tout ce qu'on peut. C'est incroyable la richesse qu'il y a. Mais la façon dont on a géré l'agriculture, c'est pour faire toujours plus de profit. En fait, on pourrait aller très loin dans les réflexions de tout ce qui se passe sur la surface du globe depuis des décennies. Mais s'il n'y avait pas eu toutes ces choses-là, est-ce qu'il y aurait des guerres? Est-ce qu'il y aurait autant d'orphelins? Comment seraient traités les étrangers? En fait, pour en revenir au début, ma question c'était, c'est quoi votre notion de la justice? C'est quoi pour vous la justice? Ce qu'on peut comprendre, c'est que le peuple hébreu, quand il disait « Mais où est le Dieu de la justice ?», ils attendaient quelqu'un, un justicier, qui allait venir éradiquer leurs difficultés, qui allait venir enlever l'oppresseur, qui allait faire justice, qui allait faire presque un claquement de doigts et puis tout ira mieux. Mais en fait, la justice, c'est vraiment pas ça. La justice, pour chacun, elle commence par soi-même. La justice, c'est une personne. La justice, c'est Jésus-Christ. Et en fait, Dieu est tellement saint. Dieu est tellement saint qu'il ne peut pas tolérer l'impureté, il ne peut pas tolérer le péché. Mais Dieu est tellement amour qu'il nous a envoyé Jésus pour qu'on puisse être pardonné et sauvé de toutes nos injustices. Et s'il y a encore des guerres dans le monde, s'il y a encore de la misère, s'il y a encore de la pauvreté, c'est parce que toutes ces personnes-là trouve que le sacrifice du Fils unique de Dieu n'est pas suffisant. Ça, c'est la vraie réponse à tout ce qui se passe sur la surface du globe. C'est parce qu'il y a des personnes qui pensent que le sacrifice de Jésus-Christ n'est pas suffisant. Alors la justice qu'ils attendent, c'est des claquements de doigts, mais ce n'est pas d'aller voir en soi-même qu'est-ce qui me concerne, qu'est-ce que je n'ai pas compris, qu'est-ce qui doit être purifié. Ça, c'est la justice de Dieu. Donc toutes les personnes qui refusent Jésus-Christ essayent de se faire justice elles-mêmes. C'est ce qu'on appelle la propre justice. Parce qu'elles estiment qu'elles peuvent faire, qu'elles peuvent soumettre leur, comment dire, que l'autorité qui est au-dessus d'elles, c'est quelqu'un d'autre que Dieu ou elles-mêmes. Mais elles ne reconnaissent pas l'autorité de Dieu sur leur vie. Elles ne reconnaissent pas l'autorité de Dieu sur la terre. Voilà pourquoi notre monde va mal. Parce qu'on n'a pas compris, mais qu'est-ce que la justice ? La justice, c'est vraiment le Dieu saint, le Dieu d'amour, qui a réussi à concilier les deux pour que nous puissions de nouveau être pleinement en Dieu. Alors ça passe pour nous, pour tous ceux qui ont accepté le Seigneur, ça passe pour de la purification. Et pour tous ceux qui se rebellent encore, ça passe pour du jugement. On a toujours le choix. Je ne sais pas où vous en êtes de vos compréhensions et j'espère avoir été assez claire parce que par ce moyen, je n'ai pas réussi à suivre mes notes comme j'aurais voulu le faire, ce qui fait que j'espère que vous avez compris l'essence même du message. Mais s'il y a quelque chose sur quoi j'aimerais vraiment insister, même pour les temps qui viennent, essayez de rechercher à comprendre toujours plus profondément, parce qu'il y a vraiment des révélations à saisir. Mais qui est la personne de Jésus-Christ ? Ce n'est pas juste Dieu incarné en homme qui est mort à la croix et puis qui est ressuscité. Le sacrifice de Jésus, il y a déjà toute l'injustice du monde qu'il a été d'accord de porter sur lui. C'est toute cette pauvreté qu'on a provoquée. C'est tous ces cataclysmes qu'on a provoqués. C'est toutes ces douleurs, ces abus qu'on a provoqués. Lui est devenu, il est devenu toutes ces choses-là. Il s'est identifié à la mort, il s'est identifié au péché pour l'engloutir dans la mort, pour que nous soyons sauvés. Et ça, c'est vraiment un événement cosmique. Et le jugement qui va revenir, c'est quelque chose d'encore plus, c'est encore plus grand parce que ça va toucher à l'histoire de l'humanité. Et on y va dans cette direction. On y va. Alors de comprendre, mais qu'est-ce que la justice ? La justice, c'est une personne. La justice, c'est une personne. Jésus est justice. Et elle se manifeste d'abord par son sacrifice à la croix. Mais elle se manifeste par le fait qu'il y aura une purification et un jugement, mais qu'en nous purifiant, de toute façon, notre salut, il est acquis. Notre salut en Christ, il est acquis, mais il va nous purifier et nous serons totalement saints en lui quand ce jour grand et redoutable sera venu. Donc, il n'y a pas de peur à avoir, mais il y a le processus de purification à continuer. Mais comprenons qu'il y a une personne qui est la justice. Et que si on sort de ses voies, c'est normal que ça aille pas. Dieu ne change pas, Dieu est toujours le même. Amen. Plus j'avance dans ce livre de Malachie, plus plus pour moi ça va profond, le message va profond, parce que c'est vrai, quand j'ai compris que c'était ce livre qu'il fallait prendre, je me suis dit que j'y arriverais jamais, parce que quand on lit Malachi comme ça une première fois, ben en fait le texte il est difficile. Il y a des choses simples qu'on comprend, mais pour vraiment comprendre le message c'est difficile. Et presque message après message, je me disais mais non, mais je peux pas prêcher là-dessus. Comment je vais faire? Qu'est-ce que je vais dire? Et à chaque fois c'était des défis, mais à chaque fois ça me fait aller toujours plus profondément dans le texte, toujours plus profondément dans le cœur de Dieu, toujours plus profondément dans l'identité même de Dieu, et du coup dans mon identité à moi. Mais qui je suis devant Dieu pour qu'il ait fait tout ça pour moi? Cette grâce de bénéficier du Dieu de justice qui m'a déjà justifiée. En fait, il y a vraiment, de texte en texte, c'est une purification, c'est un remontage de bretelles, comme je vous disais une des dernières fois. C'est vraiment, le Seigneur est en train de toucher à tous les domaines de l'existence pour nous dire, mais voilà comment vous êtes, mais il vous faut changer ça. Alors on va toujours plus profondément, et puis on arrive bientôt au bout. Il y a 4 chapitres, ou 3 selon les numérotations des Bibles, dans le chapitre de Malachie, on va bientôt arriver à la fin. Mais on voit qu'il y a tout un parcours, et je pense que c'est un parcours qui nous parle énormément dans ces temps que nous vivons maintenant. Alors, encourageons-nous à comprendre, mais qu'est-ce que nous sommes en train de vivre, et qu'est-ce que nous avons encore à faire, quelles sont nos responsabilités dans cette période particulière. Amen.